Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1955, L'opium des intellectuels est un essai de philosophie politique et de critique des idéologies par Raymond Aron. Écrit dans le contexte de la guerre froide et de la forte influence communiste au sein de la vie intellectuelle française, il examine la complaisance de nombreux écrivains, universitaires et journalistes envers le régime soviétique. Le titre renverse la formule marxienne sur la religion et désigne le marxisme comme une croyance consolatrice pour une partie des intellectuels. Aron ne se limite pas à une dénonciation du communisme soviétique. Il analyse les catégories politiques qui organisent les débats, notamment la gauche. La révolution et le prolétariat, lorsqu'elles deviennent des mythes soustraits à la vérification des faits. Son objectif est de défendre une morale de la lucidité, compatible avec le pluralisme, la liberté de critique et les institutions représentatives. L'ouvrage reste indissociable de ces polémiques de période. Mais sa question centrale demeure comment des esprits instruits peuvent-ils sacrifier le jugement aux promesses de salut collectif. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les mythes de la gauche, de la révolution et du prolétariat. Aron organise une part essentielle de son enquête autour de trois termes dont il estime que les intellectuels font un usage mythique, la gauche, la révolution et le prolétariat. Son point ne consiste pas à nier que ces mots renvoient à des conflits sociaux et politiques réels. Il montre plutôt qu'ils prennent une fonction de classement moral simplificateur. La gauche devient le camp présumé du progrès. La révolution, un événement supposé purifier la société, et le prolétariat, un sujet historique auquel sont attribués une unité et une mission universelle. Dès lors, les régimes ou les mouvements peuvent être jugés moins selon leurs actes que selon leur proximité proclamée avec ces symboles. Cette logique explique, pour Aron, une asymétrie frappante, une démocratie libérale est sévèrement condamnée pour ses insuffisances. Tandis que les violences et les restrictions de liberté des démocraties populaires sont relativisées au nom de leur orientation historique. La critique vise donc une politique de mots qui dispense de comparer concrètement les institutions, les droits effectifs et les coûts humains. Aron invite à distinguer les idéaux de justice des récits qui transforment une appartenance politique en certificat de vertu. Cette désacralisation constitue le socle de sa critique de la crédulité intellectuelle. Deuxièmement, le communisme conçu comme religion séculière et promesse de salut, pour Aron. Le communisme exerce une attraction qui dépasse le domaine des intérêts sociaux ou de la simple analyse économique. Il y voit un messianisme politique. C'est-à-dire une doctrine qui donne à l'histoire une direction nécessaire, annonce un terme réconcilié de la société et confie à certains acteurs la tâche de le réaliser. Cette structure de croyance rend compréhensible la force affective du marxisme dans une partie de l'intelligentsia de son temps. La doctrine offre à la fois une explication globale du monde, une désignation des coupables et une promesse de délivrance. Elle peut ainsi répondre au désir de cohérence morale chez ceux qui perçoivent durement les inégalités et les contradictions des sociétés capitalistes. Mais Aron soutient que cette espérance devient dangereuse lorsqu'elle immunise un système contre toute critique. Les échecs présents sont alors expliqués comme des accidents, les violences comme des nécessités transitoires et les objections comme des signes de mauvaise conscience bourgeoise. Son diagnostic ne réduit pas les intellectuels à la duplicité, il étudie la puissance propre des croyances historiques. Toutefois, il refuse que la finalité proclamée excuse les moyens employés. La dignité humaine et les libertés publiques ne peuvent être reportées à un avenir indéfini sans perdre leur portée politique immédiate. Troisièmement, la soumission des faits au sens prétendu de l'histoire. L'ouvrage conteste la prétention de certaines philosophies de l'histoire à fournir une clé définitive des événements politiques. Aron reproche aux lectures déterministes du marxisme de présenter l'évolution historique comme une marche nécessaire vers une forme sociale supérieure. Une telle vision peut faire croire que le jugement sur les régimes doit dépendre de leur place supposée dans le mouvement de l'histoire plutôt que de leurs pratiques observables. Elle favorise une politique où le présent est sacrifié au futur annoncé. Aron oppose à cette posture une attention aux situations concrètes, aux choix contingents et à la pluralité des sociétés. L'histoire ne délivre pas mécaniquement un verdict moral et ne garantit aucune réconciliation finale. Les transformations économiques, les rapports de force internationaux et les institutions produisent des résultats incertains qui demandent enquête et comparaison. Cette critique éclaire son désaccord avec les intellectuels prêts à considérer les crimes soviétiques comme des épisodes secondaires d'une grande émancipation. Pour lui, le recours à la nécessité historique ne rend pas les atteintes à la liberté moins réelles. La question pertinente demeure celle des libertés effectivement protégées, des possibilités de contestation et du contrôle du pouvoir. En refusant de traiter l'avenir comme un tribunal infaillible, Aron rétablit la responsabilité politique dans le présent. Quatrièmement, la défense des libertés libérales face au double standard idéologique, la cible d'Aron, est aussi une manière déséquilibrée de juger les régimes. Il observe que des intellectuels français dénoncent avec vigueur les défauts des démocraties occidentales, tout en montrant une indulgence remarquable envers les régimes se réclamant du socialisme réel. Aron ne prétend pas que les sociétés libérales sont exemptes de conflits, de hiérarchie ou d'injustice. Sa démonstration repose au contraire sur une comparaison institutionnelle, une démocratie pluraliste permet la critique publique, la concurrence des opinions, le vote et la correction partielle des erreurs, alors qu'un pouvoir de parti unique tend à supprimer les conditions mêmes de sa contestation. Il attache donc un prix central à la liberté de recherche, de controverse et de critique. Ces libertés ne sont pas, dans son argument, des ornements formels masquant les rapports sociaux. Elles sont les moyens par lesquels les citoyens peuvent rendre visibles les abus et modifier pacifiquement les décisions collectives. Cette priorité explique également son opposition à un anti-américanisme automatique dans la gauche française de après-guerre. Aron demande que les démocraties soient évaluées avec leurs défauts réels, mais aussi avec leurs mécanismes de limitation du pouvoir. Sa position libérale ne procède pas de l'idéalisation de l'Occident, elle procède du refus de disculper une tyrannie au nom de ses intentions déclarées. En dernier lieu, le doute comme discipline intellectuelle contre le fanatisme, la portée durable de l'opium des intellectuels réside dans son éthique du jugement. Aron appelle les intellectuels à se méfier des modèles achevés, des prophètes de salut et des annonces catastrophistes qui exigent une adhésion immédiate. Le doute dont il parle ne signifie ni indifférence morale ni renoncement à toute action politique. Il désigne une discipline confrontée les doctrines aux faits. Admettre la possibilité de se tromper, reconnaître les coûts des décisions et préserver le droit des adversaires à discuter. Cette discipline est particulièrement nécessaire lorsque les idées politiques procurent une identité collective ou une supériorité morale. Dans ces circonstances, contredire le groupe peut sembler trahir une cause juste, ce qui encourage le silence sur les violences commises en son nom. Aron fait du scepticisme un antidote au fanatisme parce que celui-ci commence souvent par la certitude de détenir le sens complet de l'histoire. La leçon vaut au-delà du communisme visé en 1955. Toute idéologie peut devenir aveugle si elle transforme ses principes en explication totale et traite toute objection comme suspecte. Le livre ne fournit donc pas une recette partisane. Mais un critère exigeant la qualité intellectuelle se mesure aussi à la capacité de limiter ses propres certitudes et de soumettre ses préférences à l'examen. En conclusion, l'opium des intellectuels intéressera en premier lieu les lecteurs de philosophie politique, d'histoire des idées et d'histoire culturelle de la guerre froide. Il est également utile à ceux qui veulent comprendre la place exceptionnelle du communisme dans les débats intellectuels français des années 1950, ainsi que le conflit durable entre Raymond Aron et une partie de la gauche de son époque. Le lecteur doit néanmoins le situer dans son moment historique, certaines polémiques, certains adversaires et certaines formulations portent la marque du contexte immédiat. Cette contextualisation ne retire pas sa valeur au livre, mais permet de distinguer son diagnostic durable de ses circonstances particulières. Son bénéfice intellectuel est d'apprendre à examiner les doctrines à partir de leurs effets institutionnels et humains plutôt que de leurs seules promesses. Il fournit des outils pour repérer les doubles standards, les récits de nécessité historique et les indulgences suscitées par une cause admirée. Par rapport aux essais antitotalitaires plus directement centrés sur les structures de domination, Aron se distingue par son attention à la responsabilité des producteurs de discours écrivains, universitaires et commentateurs. Il cherche moins à décrire seulement un régime qu'à comprendre les raisons de la fascination qu'il exerce sur des esprits cultivés. Cette articulation entre analyse des mythes politiques, comparaison des institutions et défense du doute donne au livre sa singularité. Sa lecture demeure stimulante pour qui accepte une critique ferme, parfois polémique, mais soucieuse de préserver la liberté de discussion contre les certitudes idéologiques. Si vous souhaitez soutenir Raymond Aron, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.